Ivanhoé, chapitre 41. Les nouveaux arrivants étaient Wilfrid d'Ivanhoé, sur le palefroy du prieur de Saint-Botolph, et Gurth, qui le suivait sur le cheval de bataille même du chevalier. L'étonnement d'Ivanhoé fut extrême quand il vit le roi couvert de sang, et 6 ou 7 cadavres gisant autour de lui dans la petite clairière où le combat avait eu lieu. Il ne fut pas moins surpris de voir Richard, entouré d'un si grand nombre de serviteurs forestiers qui paraissaient être les outlaws du voisinage, formant par conséquent un cortège périlleux pour un prince. Il hésita un instant s'il devait s'adresser au roi en cette qualité ou lui parler encore comme au chevalier noir. Richard s'aperçut de son embarras. « Ne crains pas, Wilfrid, dit-il, de t'adresser à Richard Plantagenet, puisque tu le vois dans la compagnie de tant de vrais et vaillants cœurs anglais, quoiqu'ils aient pu s'écarter du bon chemin, entraînés par le sang vif de leur race. « Mais Sir Wilfrid d'Ivanhoé, dit le chef des outlaws s'avançant vers lui, « mes assurances ne peuvent rien ajouter à celles de notre souverain. Cependant, permettez-moi de vous dire avec quelque orgueil que de tous les sujets qui ont souffert, il n'en est pas de plus fidèle que ceux qui l'entourent en ce moment. « Je n'en puis douter, brave archer, reprit Wilfrid, puisque tu es de ce nombre. Mais que signifient ces signes de mort et de danger, ces hommes tués et l'armure sanglante de mon prince ? « La trahison s'est approchée de nous, Ivanhoé, dit le roi. Mais grâce à ces braves gens, la trahison a été punie. Mais à présent que j'y pense, « toi aussi tu es un traître, » ajouta Richard en souriant. « Un traître des plus désobéissants, car nos ordres étaient positifs. Tu devais demeurer dans la maison de Saint-Botolph jusqu'à ce que ta blessure fût guérie. »« Elle est guérie, » répondit Ivanhoé. « Elle n'a pas maintenant plus d'importance que l'égratignure d'un poinçon. Mais pourquoi, mon noble prince, voulez-vous ainsi torturer les cœurs de vos serviteurs fidèles ? Exposer votre vie précieuse dans des voyages isolés et de folles aventures, comme si elle n'avait pas plus de prix que celle d'un chevalier errant qui n'a que la cape et l'épée. Hey, Richard Plantagenet, repartit le roi, ne désire pas d'autre renommée que celle que peuvent lui faire acquérir sa lance et son épée. Richard Plantagenet est plus fier de mener à fin une aventure sans autre aide que sa bonne épée et la vigueur de son bras, que de conduire au combat une armée de 100 000 soldats. « Mais votre royaume, monseigneur, répliqua Ivanhoé, votre royaume est menacé de dissolution et de guerre civile, et vos sujets de toutes sortes de maux s'ils perdaient leur souverain dans quelqu'un de ces dangers que chaque jour vous vous plaisez à braver, et à l'un desquels vous venez en ce moment même d'échapper si miraculeusement. « Oh, mon royaume et mes sujets !» répond Richard avec importance. « Je te dis, messire Wilfrid, que les meilleurs d'entre eux sont tout disposés à payer mes folies en même monnaie. Par exemple, mon très fidèle serviteur Wilfrid d'Ivanhoé ne veut pas obéir à mes ordres positifs. Et cependant, il vient réciter une homélie à son roi parce que son roi ne sera pas conduit exactement d'après son conseil. Lequel de nous a le plus de raisons de faire des reproches à l'autre ? Cependant, pardonne-moi, mon fidèle Wilfrid, le temps que j'ai passé et que je veux passer encore incognito était, comme je t'ai expliqué au monastère de Saint-Botolph, nécessaire pour donner à mes amis et à ma noblesse le temps de réunir leurs troupes, afin que, lorsque le retour de Richard sera annoncé, il se trouve à la tête d'une force assez imposante pour faire trembler ses ennemis en face et comprimer ainsi la trahison méditée sans même avoir besoin de tirer l'épée. Les forces avec lesquelles Estouteville et Bohun doivent marcher sur York ne seront prêtes que dans 24 heures. J'attends des nouvelles de Salisbury dans le sud, de Beauchamp dans le comté de Warwick, de Malton et de Percy dans le nord. Le chancelier doit s'assurer de Londres. C'est mon apparition trop soudaine qui m'eût exposé à des périls, dont n'aurait pu me tirer ni ma lance ni mon épée, quoique secondé par l'arc du hardi Robin Hood, par le bâton à deux bouts de notre joyeux frère Tuck et par le corps du sage Wamba. Wilfrid s'inclina d'un air respectueux, sachant parfaitement qu'il était inutile de lutter contre l'indomptable esprit de chevalerie qui poussait si souvent son maître dans des périls qu'il eût facilement évités, ou plutôt qu'il lui était impardonnable de chercher. Le jeune chevalier soupira en silence, tandis que Richard, content d'avoir fait taire son conseiller, quoique, au fond de son cœur, il reconnût la justice de l'accusation portée contre lui, continua sa conversation avec Robin Hood. « Roi des Outlaws, lui dit-il, n'avez-vous pas quelque rafraîchissement à offrir à votre frère en royauté? Ces coquins que nous avons expédiés m'ont donné à la fois de l'exercice et de l'appétit. » À la vérité, répliqua le capitaine, car je ne puis mentir à votre grâce. Notre buffet est principalement fourni de... Il s'arrêta, l'air embarrassé. De fenaison, je le suppose, reprit Richard gaiement. C'est dans un moment pressant, la meilleure chair. Et vraiment, quand un roi ne reste pas chez lui pour tuer son propre gibier, il me semble qu'il n'a pas à crier trop haut de ce qu'on l'aura tué pour lui. Donc, votre grâce, ajouta Robin, veut encore honorer de sa présence un des lieux de rendez-vous de Robin Hood. La venaison ne fera pas défaut. Il y aura encore une cruche d'ale et peut-être une bouteille de vin passable. En conséquence, l'outlaw prit les devants, suivi du joyeux monarque, plus heureux probablement de cette rencontre fortuite avec Robin Hood et ses forestiers, qu'il ne l'eût été de reprendre sa place sur son siège royal et de présider une assemblée splendide de pairs et de seigneurs. Tout ce qui était nouveau, tout ce qui sentait l'aventure, avait des charmes pour Richard, cœur de lion, et un danger qu'il avait bravé et surmonté ne faisait qu'en augmenter le prix à ses yeux. Dans ce roi courageux et téméraire, le caractère brillant mais inutile d'un chevalier de roman se trouvait en quelque sorte renouvelé et réalisé, et la gloire personnelle qu'il devait obtenir par ses propres faits d'armes était bien autrement chère à son imagination exaltée que ne l'eût été l'éclat d'un gouvernement de politique et de sagesse. Aussi, son règne fut-il comme le cours d'un météore, rapide et étincelant qui parcourt le ciel, répandant autour de lui une lumière éblouissante, mais inutile, que remplace aussitôt une obscurité profonde. Ses hauts faits chevaleresques fournirent des sujets de chant aux bardes et aux ménestrels, mais ne laissèrent à son pays aucun de ces bienfaits durables sur lesquels l'histoire aime à s'arrêter et qu'elle présente comme un exemple à la postérité. Dans sa société actuelle, Richard se montrait avec tous ses avantages. Il était gai, de bonne humeur et passionné pour la bravoure, n'importe dans quelle classe il la rencontrait. Le repas champêtre fut disposé à la hâte sous un grand chêne où le roi d'Angleterre s'assit, environné d'hommes proscrits par son gouvernement et qui faisaient maintenant sa cour et sa garde. Quand la cruche eut circulé à la ronde, les rudes forestiers oublièrent bientôt ce respect auguste qu'impose la présence de la majesté royale. La chanson et les colibés passèrent de bouche en bouche, chacun raconta les histoires de ses hauts faits. Puis enfin, tandis que tous se vantaient de quelque heureuse infraction aux lois, personne ne se souvint qu'ils parlaient en présence de leur gardien naturel. Le roi débonnaire, se souciant aussi peu de sa dignité que ses compagnons de table, riait, buvait et badinait au milieu de la bande joyeuse. Le bon sens naturel et rude de Robin Hood lui fit désirer que la scène se terminât avant que rien vînt en troubler l'harmonie, d'autant plus qu'il voyait le front d'Ivanhoé assombri par l'inquiétude. « Nous sommes honorés, dit-il à Ivanhoé à voix basse, par la présence de notre courageux souverain. Cependant, je serais fâché de le voir perdre ici un temps que les affaires de son royaume peuvent rendre précieux. » C'est parler avec prudence et sagesse, brave Robin Hood, répondit Wilfrid. Vous devez savoir d'ailleurs que plaisanter avec un roi, même dans ses moments d'abandon, c'est jouer avec un lion, qui à la moindre provocation se sert de ses dents et de ses griffes. Vous avez touché la vraie cause de ma crainte, ajouta l'outlaw. Mes hommes sont grossiers par nature et par habitude. Le roi est aussi impétueux qu'enjoué. Qui sait si bientôt un motif d'irritation ne surviendra pas. Il est temps d'interrompre ce repas. Tâchez alors de trouver quelque moyen, brave Yeoman, dit Ivanhoé, car chaque insinuation que j'ai hasardée à ce sujet semble avoir décidé à prolonger la séance. Dois-je si vite abuser du pardon et de la faveur de mon souverain ? Dit Robin Hood en réfléchissant un moment. Oui, par Saint-Christophe, il le faut. Je ne serais pas digne de sa faveur si je ne risquais pas de la perdre pour tâcher de lui rendre service. Hola, Scatlock, va te cacher derrière ce taillis et entonne-moi une fanfare normande sur ton corps de chasse, et fais cela sans perdre un instant. Scatlock obéit à son capitaine, et au bout de 5 minutes, le son du corps fit tressaillir les convives. C'est le corps de Malvoisin, s'écria le meunier se redressant sur ses pieds et saisissant son arc. Le frère Tuck lâcha le flacon qu'il tenait en ce moment et saisit son bâton à deux bouts. Wamba s'arrêta au milieu d'une plaisanterie et reprit sa targe et son épée. Tous les autres assistants ramassèrent leurs âmes. Les hommes qui mènent une vie précaire passent facilement de la table au combat. Et pour Richard, l'échange ne paraissait qu'une succession de nouveaux plaisirs. Il demanda son casque et les parties les plus lourdes de son armure, dont il s'était dépouillé, et tandis que Gert les lui rattachait, il défendit à Wilfrid, sous peine d'encourir tout son déplaisir, de s'engager dans l'escarmouche qu'il supposait imminente. « Tu as combattu 100 fois pour moi, Wilfrid, et je n'étais que spectateur. Aujourd'hui, regarde à ton tour, et tu verras de quelle manière Richard combattra pour son ami et son fidèle sujet. » Sur ces entrefaites, Robin Hood avait dépêché plusieurs de ses hommes de différents côtés, comme pour reconnaître l'ennemi. Et lorsqu'il vit la réunion absolument dissoute, il s'approcha de Richard, qui était déjà complètement armé, et, mettant un genou en terre, il implora le pardon de son souverain. « Quel pardon, bon Yeoman ? » demanda Richard avec impatience. « Ne t'avons-nous pas déjà accordé un plein pardon de toutes tes fautes ? Penses-tu que notre parole soit une plume que le vent emporte tantôt d'un côté, tantôt de l'autre ? Tu n'as pas eu le temps de commettre une nouvelle offense depuis cette rémission. » « Je l'ai fait, » répliqua le capitaine. « Si c'est une offense de tromper mon prince dans son intérêt, le corps que vous venez d'entendre n'était pas celui de Malvoisin. C'est par mes ordres qu'on en a sonné pour interrompre le banquet, de peur qu'il n'empiétât sur des heures trop précieuses pour être dissipées ainsi. » Puis il se releva, croisa les bras sur sa poitrine, et avec une contenance plutôt respectueuse que craintive, il attendit la réponse de son roi, comme un homme qui sent qu'il peut avoir commis une faute, mais qui se repose sur la droiture de son intention. La colère fit monter le sang au visage de Richard, mais ce ne fut qu'une émotion passagère. Le sentiment de la justice la réprima aussitôt. « Le roi de Sherwood, dit-il, craint-il que le roi d'Angleterre ne fasse une trop grande brèche à sa venaison et à ses cruches de vin ? C'est bien, hardi Robin. Mais quand tu viendras me voir dans ma joyeuse ville de Londres, tu me trouveras un hôte plus généreux. Tu as bien fait cependant, bon camarade. À cheval, donc, et en route. Il y a 1 heure que Wilfrid s'impatiente. Dis-moi, hardi Robin, as-tu jamais eu dans ta bande un ami qui, ne se bornant pas à te donner des conseils, prétend diriger tes mouvements et paraisse malheureux quand tu marches à ta volonté et non à la sienne ? « Oui, sire, reprit Robin, tel est mon lieutenant Petit-Jean, qui est en ce moment en expédition sur les frontières d'Écosse, et j'avouerai à votre majesté que je suis souvent froissé par la franchise de ses conseils. Mais quand j'y songe 2 fois, je ne puis être longtemps fâché contre un homme qui ne peut avoir d'autre motif que son zèle pour le service de son maître. » « Tu as raison, brave Yeoman, répondit Richard. Et si j'avais Ivanhoé d'un côté pour me donner de sages conseils, appuyé de la sérieuse tristesse de son front, et toi de l'autre pour me mener par la ruse à ce que tu crois mon intérêt, je serais le roi le moins libre de la chrétienté. Mais allons, mes amis, mettons-nous en route pour Königsbourg, et n'y pensons plus. » Robin Hood lui dit qu'il avait déjà fait partir une troupe de ses gens du côté de la route qu'ils avaient à traverser. L'homme qui la commandait ne manquerait pas de découvrir toute embuscade secrète. « Il ne doutait pas, ajouta-t-il, qu'ils ne trouvassent les chemins sûrs, mais au cas contraire, ils recevraient à temps un avertissement du danger. Cela les mettrait à même de se replier sur une troupe d'archers avec laquelle ils se proposaient de les suivre à distance. » Ces sages et prudentes précautions prises pour sa sûreté touchèrent le cœur de Richard et achevèrent de dissiper le léger ressentiment qu'avait fait naître en lui l'innocente tromperie du chef des Outlaws. Il tendit encore une fois la main à Robin Hood, l'assura de son entier pardon et de sa faveur à venir, aussi bien que de sa résolution inébranlable de modérer la rigueur tyrannique des règlements de chasse, ainsi que des autres lois oppressives par lesquelles tant de yéomènes anglais étaient réduits à un état de rébellion. Les bonnes intentions de Richard envers le grand outlaw restèrent sans résultat, par suite de la mort prématurée du roi, et la charte forestière fut, au contraire, arrachée au prince Jean lorsqu'il eut succédé sur le trône à son valeureux frère. Quant au reste de l'histoire de Robin Hood et à la trahison qui fut cause de sa mort, on les trouvera dans ces petits livres gothiques qu'on vendait autrefois un sou, mais qu'on croit aujourd'hui payer bon marché en les couvrant d'or. L'opinion de l'outlaw était bien fondée. Le roi, accompagné d'Ivanhoé, de Gurt et de Wamba, arriva sans accident en vue du château de Königsbourg, avant que le soleil eût quitté l'horizon. Il existe en Angleterre peu de paysages aussi beaux et aussi pittoresques que les alentours de cette vieille forteresse saxonne. La douce et gentille rivière de Don coule à travers un amphithéâtre où les terres cultivées se mêlent avec les pays boisés. Et sur une colline dont la rivière baigne le pied et que défendent des murs et des fossés, s'élève ce vieil édifice qui, avant la conquête, avait été, comme l'indique son nom saxon, une des habitations royales des monarques d'Angleterre. Les murs extérieurs ont été probablement ajoutés par les Normands, mais le donjon intérieur présente les indices d'une très grande antiquité. Ce donjon est situé sur une élévation à un des angles de la cour intérieure et forme un cercle régulier d'environ 25 pieds de diamètre. Les murs ont une épaisseur prodigieuse. Six gros arcs-boutants extérieurs saillent du pourtour et montent contre les côtés de la tour comme pour la fortifier ou lui servir d'appui. Ces arcs-boutants massifs sont creux à partir de quelques pieds du sol et se terminent par une sorte de tourelle qui communique avec l'intérieur du donjon. Dans le lointain, l'aspect de cette vaste bâtisse, avec ses singulières dépendances, n'est pas moins intéressant pour les amateurs de pittoresque que ne l'est l'intérieur même du château, pour l'ardent antiquaire, dont, à cet aspect, l'imagination se reporte au temps de l'heptarchie. On montre dans le voisinage du château une éminence considérable comme étant la tombe du fameux Hengist, et divers monuments très curieux et très antiques se voient aussi dans le cimetière voisin. Lorsque Richard Cœur de Lion et son cortège arrivèrent à ce bâtiment d'une architecture grossière, mais d'un effet imposant, il n'était pas, comme aujourd'hui, entouré de fortifications. L'architecte saxon avait épuisé son art à rendre le principal donjon imprenable, et la seule circonvallation qu'on y vit était une barrière en palissade grossièrement construite. Une grande bannière noire flottant au haut de la tour annonçait les obsèques du dernier propriétaire du manoir. Ce drapeau ne portait aucun emblème indiquant la naissance et le rang du défunt, car les armoiries qui était encore une nouveauté parmi les chevaliers normands eux-mêmes, était totalement inconnue aux Saxons. Mais au-dessus de la porte d'entrée était suspendue une autre bannière sur laquelle le portrait d'un cheval blanc grossièrement peint, symbole bien connu d'Hengist et des guerriers saxons, indiquait la nation et le rang du défunt. Tout autour du château, il y avait un mouvement confus et plein d'agitation, car de tels banquets funéraires étaient des occasions d'une hospitalité générale et abondante, à laquelle étaient appelées toutes les personnes ayant le moindre rapport avec le défunt. Tous les voyageurs de passage étaient encore invités à partager ces fêtes. Les richesses et le rang d'un tel stan avaient fait observer cette coutume dans toute son étendue. On voyait donc des troupes nombreuses, les unes montant, les autres descendant la colline sur laquelle le château était situé. Et lorsque le roi Richard et sa suite eurent franchi la porte ouverte et non gardée de la première barrière, l'enceinte où ils se trouvaient leur offrit une scène qu'il était difficile de concilier avec le sujet mélancolique de la réunion. D'un côté, des cuisiniers faisaient rôtir en plein air des bœufs énormes et des moutons gras et des veaux. D'un autre côté, on défonçait des tonneaux d'ales qui étaient placés là pour être vidés au gré de tous les assistants. Des groupes de toutes sortes dévoraient la nourriture et avalaient la bière ainsi livrée à leur discrétion. Là, le cerf saxon au corps nu noyait le souvenir de 6 mois de faim et de soif en un jour de gloutonnerie et d'ivresse. Là aussi, le bourgeois replé et le commerçant joufflu mangeaient le morceau qu'ils croyaient le plus délicat et louaient ou critiquaient la qualité de l'âle et l'habileté du brasseur. Un petit nombre de seigneurs normands se voyaient aussi, aisément reconnaissables à leurs mentons rasés et à leurs manteaux courts. Ceux-ci se tenaient ensemble à l'écart, regardant avec un grand dédain la cérémonie, tout en profitant de la bonne chère qu'on dispensait si libéralement. Il va sans dire que les mendiants étaient là par centaines, ainsi que les soldats vagabonds revenus de Palestine. Ils le disaient du moins. Les colporteurs étalaient leurs marchandises, les ouvriers ambulants cherchaient de l'emploi, des pèlerins errants, des prêtres des montagnes, des ménestrels saxons, des bardes gallois marmottaient des prières et déchiraient les oreilles avec leurs instruments et leur musique discordante. L'un célébrait les louanges d'Athelstan dans un panégyrique lugubre, un autre redisait, dans un poème généalogique en langue saxonne, les noms étrangement durs et sauvages de ses nobles ancêtres. Il ne manquait dans cette foule bigarrée ni de bouffons ni de jongleurs, et dans cette funèbre occasion, l'assemblée les suivait des yeux, sans voir dans l'exercice de leur profession rien d'indécent ni d'intempestif. À la vérité, les idées des Saxons en de telles occurrences étaient aussi naïves qu'elles étaient grossières. Si la douleur avait soif, il fallait lui donner à boire. Si elle avait faim, il fallait lui donner à manger. Si elle attristait les cœurs, il fallait recourir aux moyens de se réjouir, ou tout au moins de se distraire. Aussi, les assistants ne manquaient-ils pas de profiter de ces diverses consolations qu'ils avaient sous la main. Bien que, de temps en temps, comme s'ils se fussent souvenus tout à coup de la cause qui les avait réunis, les hommes se prirent à gémir de concert, tandis que les femmes, dont le nombre était grand, élevaient la voix et remplissaient l'air de cris lamentables. Telle était la scène bizarre qui se passait dans la cour du château de Königsbourg lorsque Richard et sa suite y pénétrèrent. L'intendant ne daignait pas faire attention au groupe de gens inférieurs qui entraient et sortaient continuellement, si ce n'est pour le maintien de l'ordre. Mais il fut frappé de la bonne mine du monarque, et d'Ivanhoé surtout, croyant reconnaître les traits de ce dernier. De plus, l'approche de 2 cavaliers, qu'on reconnaissait bien pour tels à leur costume, était un événement rare dans une solennité saxonne, et fut nécessairement regardée comme un honneur rendu au défunt et à sa famille. Vêtu de noir et tenant à la main la baguette blanche de son office, ce personnage important ouvrit un passage à travers la foule des visiteurs et conduisit Richard et Ivanhoé jusqu'à l'entrée de la tour. Gert et Wamba trouvèrent bientôt des connaissances dans la cour et ils se tinrent à l'écart, n'osant se présenter avant d'être appelés par leur maître. Chapitre 42. La manière de pénétrer dans la grande tour du château de Königsbourg est toute particulière et se ressent de la rude simplicité des temps primitifs de sa construction. Un perron étroit et rapide conduit à une porte basse située du côté du midi de la tour, par où l'antiquaire audacieux peut encore, ou du moins pouvait, il y a quelques années, gagner un petit escalier pratiqué dans la grande muraille de la tour et conduisant au troisième étage de la bâtisse. Les deux étages inférieurs sont des caveaux qui ne reçoivent ni air ni lumière, sauf par un soupirail carré percé au troisième étage avec lequel il semble avoir communiqué par une échelle. On parvenait aux appartements supérieurs de la tour, qui comprenaient en tout 4 étages, par des escaliers ménagés dans les arcs-boutants extérieurs. C'est par cette entrée difficile et compliquée que le bon roi Richard, suivi de son fidèle Ivanhoé, fut conduit dans l'appartement circulaire qui occupe tout le troisième étage. Wilfrid profita des difficultés de la montée pour s'envelopper la figure dans son manteau, précaution qu'il crut devoir prendre pour n'être aperçu de son père qu'au moment où le roi lui donnerait le signal de se montrer à lui. Ils trouvèrent dans cet appartement, assis autour d'une grande table de chêne, une douzaine des représentants les plus distingués des familles saxonnes appartenant aux provinces voisines. C'étaient tous des vieillards ou du moins des hommes mûrs, car la nouvelle génération, au grand déplaisir des anciens, avait, comme Ivanhoé, franchi une partie des barrières qui, depuis un demi-siècle, séparaient les Normands vainqueurs des Saxons vaincus. Les regards abattus et pleins de tristesse de ces hommes vénérables, leur silence et leur attitude même formaient un contraste frappant avec la scène bruyante que présentait la cour du château. Leurs cheveux gris, leurs barbes longues, ainsi que leurs tuniques sévères et leurs manteaux noirs, cadraient bien avec la simplicité grossière de l'appartement dans lequel ils étaient réunis. Ils offraient l'aspect d'une troupe d'adorateurs de l'ancien Woden, rappelés à la vie pour pleurer la décadence de leur gloire nationale. Cédric, quoique assis sur un siège de même hauteur que ses concitoyens et sans distinction apparente, paraissait cependant agir avec l'assentiment général comme chef de l'assemblée. À l'entrée de Richard, qu'il ne connaissait encore que comme le vaillant chevalier au cadenas, il se leva gravement et lui donna la bienvenue par la salutation usuelle « Y.S.A.L. » portant en même temps un gobelet à la hauteur de ses lèvres. Le roi, nullement étranger aux coutumes de ses sujets anglais, rendit le compliment en se servant des mots habituels « Drink well » et prit une coupe qui lui fut présentée par les chansons. La même politesse fut faite à Ivanhoé, qui fit raison à son père sans parler, inclinant seulement la tête, de peur que sa voix ne le fît reconnaître. Quand cette première cérémonie fut terminée, Cédric se leva, et présentant la main à Richard, il le conduisit dans une petite chapelle, assez grossièrement taillée dans un des arcs-boutants extérieurs. Comme il ne s'y trouvait d'autre ouverture qu'une étroite meurtrière, cette enceinte eût été presque totalement obscure sans l'emploi de 2 flambeaux ou torches, dont la lumière rouge et enfumée permettait de distinguer le toit arqué, les murailles nues, l'autel de pierre et un crucifix de même matière. Devant cet autel était une bière, à chaque côté de laquelle 3 prêtres agenouillés, leur rosaire à la main, disaient des prières à demi-voix avec tous les signes de la plus grande dévotion. Une offrande splendide avait été payée pour ce service au couvent de Saint-Edmond, par la mère du défunt, et pour le célébrer plus dignement, la confrérie tout entière, à l'exception du sacristain boiteux, s'était rendue à Königsbourg, où, tandis que 6 prêtres accomplissaient constamment les rites funéraires près du corps d'Athelstan, les hôtes ne manquaient pas de prendre leur part des rafraîchissements et des amusements que l'on distribuait au château. Les bons moines qui montaient cette pieuse garde avaient bien soin de ne pas interrompre leur chant pendant un seul instant, de peur que Zernebock, l'ancien démon saxon, ne mit ses griffes sur le défunt Æthelstan. Il n'était pas moins attentif à empêcher qu'aucun laïc sacrilège ne touchât au poêle qui couvrait la bière. C'était celui qui avait servi aux funérailles de Saint-Edmond, et auquel le contact d'un profane eût pu faire perdre la vertu qu'il tenait de cette consécration. Si ses attentions pouvaient être de quelque utilité au défunt, il avait bien le droit de les attendre de la confrérie de Saint-Edmond. Car, indépendamment des 100 pièces d'or données comme la rançon de l'âme, la mère d'Æthelstan avait annoncé que son intention était de léguer au couvent la plus grande partie de ses terres, afin d'obtenir des prières perpétuelles pour le repos de son âme et pour le repos de celle de son fils et de son mari défunt. Richard et Wilfrid suivirent Cédric, le Saxon, dans la chambre mortuaire, et imitant leur guide, qui, d'un air solennel, leur désignait la bière d'Æthelstan, ils se signèrent dévotement et murmurèrent une courte prière pour le salut du trépassé. Après cette action de pieuse charité, Cédric leur fit de nouveau signe de le suivre, et, d'un pas muet, gravissant quelques degrés de pierre, il ouvrit avec beaucoup de précaution la porte d'un petit oratoire contigu à la chapelle. Il était de 8 pieds carrés environ, pratiqué, ainsi que la chapelle, dans l'épaisseur de la muraille. L'espèce de meurtrière qui éclairait cet oratoire, et qui, extérieurement fort étroite et s'élargissant considérablement à l'intérieur, recevait en ce moment les rayons du soleil couchant. Laissez voir une femme, d'un extérieur très distingué, dont la figure conservait encore les restes remarquables d'une beauté majestueuse. Sa longue robe de deuil et sa guimpe flottante de crêpe noire rehaussaient la blancheur de sa peau et la beauté de ses tresses blondes que le temps avait respectées. Sa figure exprimait la plus profonde tristesse et une pieuse résignation. Devant elle, sur une table de pierre, était placé un crucifix d'ivoire, près duquel était posé un missel dont les pages étaient richement enluminées et qui se fermait avec des agrafes d'or. « Noble Edith, » lui dit Cédric après avoir gardé le silence pendant un instant, comme pour donner à Richard et à Wilfrid le temps de contempler la châtelaine. « Ce sont de dignes étrangers qui viennent prendre part à tes chagrins. Et celui-ci, » ajouta-t-il, « est le vaillant chevalier qui a combattu avec tant de bravoure pour la délivrance de celui que nous pleurons aujourd'hui. » « Sa bravoure mérite mes remerciements, » répondit la dame, « bien que ce soit la volonté du ciel qu'elle n'ait pu être utile à ma maison. Je le remercie aussi, de même que son compagnon, de la courtoisie qui les a conduits ici près de la veuve d'Adeling, de la mère d'Æthelstan, dans cette heure de tristesse et de lamentation. Je les confie à vos soins, mon digne parent, certaine qu'ils ne manqueront pas de l'hospitalité que ces tristes murs peuvent encore leur offrir. » Les deux chevaliers s'inclinèrent profondément devant la mère éplorée et se retirèrent avec leur guide. Un autre escalier, tournant, les conduisit à une salle de même grandeur que celle où ils avaient été reçus d'abord et qui occupait l'étage supérieur. Avant que la porte en fût ouverte, ils entendirent sortir de cette chambre les accents d'un chant lent et mélancolique. Lorsqu'ils furent entrés, ils se trouvèrent en présence d'une 20aine de matrones et de jeunes filles de nobles familles saxonnes. 4 jeunes filles, parmi lesquelles se trouvait Rowena, conduisait le chœur, élevant au ciel pour l'âme du défunt une hymne dont nous n'avons pu retrouver que 2 ou 3 stances. Sorti de la poussière, l'homme doit retourner à la poussière. Sa forme passagère et périssable est revenue à la terre et au ver. La corruption réclame la corruption. Son âme voltige sur des routes inconnues, cherchant le royaume de douleur où la flamme et les tourments effaceront la trace des souillures d'ici-bas. Fais, ô Vierge Marie, qu'il sorte bientôt de ce séjour de larmes, que les aumônes, les prières et le saint cantique délivrent son âme captive. Tandis que le cœur des jeunes filles modulait cet hymne d'une voix basse et mélancolique, les autres femmes étaient occupées à orner d'une broderie, où elles mettaient tout leur goût et toute leur adresse, un grand drap de soie, destiné à recouvrir le cercueil d'Athelstan, ou à choisir dans des corbeilles de fleurs placées devant elles des guirlandes qu'elles destinaient au même emploi lugubre. Le maintien des jeunes filles était décent, sinon empreint d'une affliction profonde. Mais de temps en temps, un murmure ou un sourire provoquait la censure des plus sévères matrones, et çà et là, on voyait une jeune fille plus occupée d'examiner si sa robe de deuil lui allait bien que de la triste cérémonie pour laquelle elle se préparait. Et même, si nous devons confesser la vérité, ce penchant à la distraction ne fut nullement diminué par l'arrivée des deux chevaliers étrangers, arrivée qui fit lever les yeux, regarder à la dérobée et chuchoter. Rowena seule, trop fière pour être vaine, accueillit son libérateur avec une courtoisie gracieuse. Sa physionomie était sérieuse, sans être abattue. Et il est permis de douter que la pensée d'Ivanhoé et l'incertitude de son sort n'eussent pas à réclamer, dans cette gravité mélancolique, une part aussi grande au moins que la mort de son parent. Pour Cédric, toutefois, qui, comme nous l'avons observé, n'était pas très clairvoyant, la tristesse de sa pupille lui parut tellement profonde qu'il jugea convenable de dire qu'elle était la fiancée du noble Athelstan. On peut penser si cette communication fut de nature à accroître la disposition de Wilfrid à partager le deuil de Königsbourg. Après avoir introduit les deux chevaliers dans les différentes chambres où les funérailles d'Athelstan étaient l'objet de soins divers, Cédric les conduisit dans un petit parloir destiné, à ce qu'il leur dit, à l'usage exclusif des hôtes de distinction, à qui une liaison moins intime avec le défunt ne permettait pas de s'unir à la douleur plus vive de ceux qui avaient été personnellement frappés par ce triste événement. Il les assura que rien ne leur manquerait et se disposait à les quitter lorsque le chevalier noir le prit par la main. « Permettez-moi de rappeler à votre souvenir, noble Tan, dit-il, que lorsque nous nous séparâmes, vous me permîtes, en reconnaissance du service que j'ai eu le bonheur de vous rendre, de m'accorder une grâce. » « Elle vous est accordée d'avance, noble chevalier, répondit Cédric. Cependant, dans ce moment de douleur, j'y ai songé aussi, interrompit le roi. Mais le temps me presse, et il me semble convenable d'ailleurs, alors que la tombe va se fermer sur le noble Athelstan, que nous déposions certains préjugés et certaines opinions préconçues. « Chevalier au cadenas !» reprit Cédric en rougissant et en interrompant le roi à son tour. « J'espère que votre demande ne se rapporte qu'à vous et non à d'autres, car en ce qui concerne l'honneur de ma maison, il serait peu convenable qu'un étranger voulût intervenir. « Aussi ne veux-je le faire, répondit le roi avec douceur, qu'autant que vous reconnaîtrez vous-même l'intérêt qui m'y porte. Jusqu'à ce moment, vous n'avez vu en moi que le chevalier noir au cadenas. Connaissez maintenant Richard Plantagenet. « Richard d'Anjou ? » s'écria Cédric en reculant de surprise. « Non, noble Cédric, Richard d'Angleterre, dont le plus cher intérêt, le plus profond désir est de voir tous ses enfants unis ensemble sans distinction de race. Eh bien, noble Tan, ton genou ne pliera-t-il pas devant ton roi ?»« Il n'a jamais plié devant le sang normand, » répondit Cédric. « Réserve donc ton hommage, » dit le monarque, « jusqu'à ce que j'aie prouvé que j'en suis digne, » en protégeant également les Normands et les Anglais. « Prince, répondit Cédric, j'ai toujours rendu justice à ta bravoure et à ton mérite. Je n'ignore pas tes droits à la couronne, comme descendant de Mathilde, nièce d'Edgar Atheling et fille de Malcolm d'Écosse. Mais Mathilde, quoique de sang royal, n'était pas héritière de la monarchie saxonne. Je ne veux pas discuter ici mes droits, noble Tan, dit Richard avec calme, mais je te dirai de regarder autour de toi et de voir quel autre titre tu trouveras à opposer au mien. Est-ce pour de tels discours, prince, que tu es venu ici ? Continua Cédric. Est-ce pour me rappeler la ruine de ma race avant même que la tombe se soit fermée sur le dernier rejeton de la royauté saxonne ? Son visage s'assombrit en prononçant ces paroles. « C'est un acte d'audace, ajouta-t-il, et de témérité. » « Non pas de par la Sainte Croix, répliqua le roi. J'ai agi avec la confiance et la franchise qu'un brave homme doit mettre dans un autre. Tu as raison, messire roi, car j'avoue que tu es roi et que tu le seras en dépit de ma faible opposition. Je n'ose recourir au seul moyen de l'empêcher, bien que tu aies placé cette forte tentation à portée de ma main. Et maintenant, revenons à ma demande, dit le roi. Et je te la réclame avec autant de confiance que si tu n'avais pas refusé de reconnaître ma souveraineté légitime. Ce que j'exige de toi, comme homme de parole et d'honneur, à peine d'être reconnu sans foi, par jure et infâme, c'est de pardonner et de rendre ton affection paternelle au brave chevalier Wilfrid d'Ivanhoé. Tu avoueras que dans cette réconciliation j'ai un intérêt. Le bonheur de mon ami et le désir de voir toute dissension s'éteindre entre mes fidèles sujets. « C'est donc Wilfrid qui t'accompagne ?» demanda Cédric en montrant son fils. « Mon père ! Mon père !» s'écria Ivanhoé en se prosternant aux pieds de Cédric. « Accorde-moi ton pardon !»« Tu l'as obtenu, mon fils !» reprit Cédric en le relevant. Le fils de Hereward respecte sa parole, même quand elle a été donnée à un Normand. Mais que je te vois reprendre le costume de tes ancêtres anglais. Pas de manteau court, pas de bonnet pimpant, pas de plumage fantasque dans ma modeste maison. Celui qui veut être le fils de Cédric, continua le Saxon, doit se montrer digne des Saxons ses ancêtres. Tu veux parler ? Ajouta-t-il sévèrement. Mais je sais d'avance ce que tu as à me dire. Lady Rowena doit porter 2 ans le deuil en mémoire de celui qui devait être son époux. Tous nos ancêtres saxons nous désavoueraient si nous songions à une nouvelle union pour elle, tandis que la tombe de celui qu'elle devait épouser, de celui qui par sa naissance et ses aïeux était plus que nul autre digne de sa main, est à peine fermée. Le spectre d'Athelstan lui-même se dépouillerait de son linceul et se présenterait devant nous pour prévenir un tel déshonneur à sa mémoire. » On eût dit que les paroles de Cédric avaient conjuré un spectre, car à peine eut-il prononcé ces paroles que la porte s'ouvrit d'elle-même et qu'Athelstan, couvert de son linceul, parut devant eux, pâle et les yeux hagards, semblable à un esprit de l'autre monde. L'effet produit par cette apparition sur les spectateurs fut épouvantable. Cédric recula de terreur jusqu'au mur de l'appartement et s'y appuya comme un homme incapable de se soutenir, regardant son ami avec des yeux qui paraissaient fixes et la bouche entr'ouverte. Ivanhoé se signa en récitant des prières latines, saxonnes ou anglo-normandes, selon qu'elles se présentaient à sa mémoire. Tandis que Richard s'écriait alternativement en latin ou en français « Bénédicité et mort de ma vie !» En même temps, un tapage effroyable se fit entendre au bas de l'escalier, les uns criant « Qu'on arrête les moines perfides !» D'autres « Qu'on les descende au caveau !» D'autres enfin « Qu'on les lance des créneaux les plus élevés !» « Au nom du ciel !» s'écria Cédric en s'adressant à ce qui lui paraissait être le spectre de son ami décédé. « Si tu es un être mortel, parle. Si tu es un esprit, dis-nous quelle cause t'amène auprès de nous et ce que je peux faire pour le repos de ton âme. Vivant ou mort, noble Athelstan, parle à Cédric. » « C'est ce que je ferai, » répondit le spectre très tranquillement, « lorsque j'aurai repris haleine et que vous m'en aurez donné le temps. Vivant, demandes-tu ? Je suis aussi vivant que peut l'être un homme qui s'est nourri de pain et d'eau pendant 3 jours qui m'ont paru 3 siècles. Oui, de pain et d'eau, Cédric, par le ciel et tous les saints du paradis. Je n'ai pas goûté une meilleure nourriture depuis 3 mortels jours, et c'est par un miracle de Dieu que je suis maintenant ici pour le dire. » « Comment, noble Athelstan ? » s'écria le chevalier noir. « Je vous ai vu renversé par le féroce templier vers la fin de l'assaut de Torquilstone, et Wamba, qui n'était pas loin de vous, nous a dit que vous aviez eu la tête fendue jusqu'aux dents. » « Vous avez mal vu, messire chevalier, » reprit Athelstan, « et Wamba a menti. Mes dents sont en bon état, et je vous le prouverai tout à l'heure en soupant. Ce n'est cependant pas la faute du templier. Son épée tourna dans ses mains de sorte que je ne reçus qu'un coup du plat de la lame, amorti par le manche de ma bonne masse d'armes avec lequel je l'avais parée. Si j'avais eu mon casque d'acier, je m'en serais moqué, et je lui aurais rendu un coup qui eût retardé sa retraite. Tel que j'étais, je tombai à terre, étourdi à la vérité, mais non blessé. D'autres combattants des deux côtés furent assommés et massacrés sur moi, de sorte que je ne repris mes sens que pour me trouver dans un cercueil. Par bonheur, il était ouvert, placé devant l'autel de l'église de Saint-Edmond. J'éternuai plusieurs fois, je gémis, puis enfin je revins tout à fait à moi, et je voulais me lever, quand le sacristain et l'abbé, pleins de terreur, accoururent au bruit, surpris sans doute, et loin d'être contents de trouver encore vivant l'homme dont ils se proposaient d'être les héritiers. Je demandai du vin, ils m'en donnèrent. Mais il était sans doute fortement drogué, car je dormis encore plus profondément qu'auparavant, et ne me réveillai qu'au bout de je ne sais combien d'heures. Cette fois, je me trouvai les bras emmaillotés, les pieds liés par tant de force que mes chevilles me brûlent encore rien que d'y penser. L'endroit où je fus déposé était complètement obscur. C'était, je crois, les oubliettes de leur couvent maudit. Et je jugeai par l'odeur étouffante et humide qui s'exhalait que ce devait être un lieu de sépulture. J'avais des idées confuses de ce qui m'était arrivé, lorsque la porte de mon cachot cria et 2 coquins de moines entrèrent. Ils voulaient me persuader que j'étais en purgatoire, mais je reconnus trop bien la voix poussive et courte d'haleine du père abbé. Par Saint Jérémie, ce n'était plus le ton dont il me demandait jadis une seconde tranche de venaison. Le chien avait dîné à ma table depuis Noël jusqu'à la fête des rois. « Remettez-vous, noble Athelstan, » dit le roi. « Respirez un peu. Contez votre histoire à loisir. Par ma foi, une pareille histoire est aussi curieuse à entendre qu'un roman. » « Oui, mais par la croix de Bronholm, il n'y a pas de roman dans l'affaire, » s'écria Athelstan. Un pain d'orge et une cruche d'eau, voilà ce qu'ils m'ont donné, les traîtres. Eux que mon père et moi avons enrichis, quand leur meilleure ressource était des tranches de lard et des mesures de blé qu'ils obtenaient à force de cajolerie des pauvres serfs et esclaves, en échange de leurs prières. Quel nid de vipères sales et ingrates! Donner du pain d'orge et de l'eau de ruisseau à un patron comme je l'avais été? Je les enfumerai dans leur repaire infect, dussé-je être excommunié. Mais au nom de Notre-Dame, noble Athelstan, s'écria Cédric en saisissant la main de son ami, comment as-tu fait pour échapper à ce péril imminent? Leurs cœurs se sont-ils amollis? Leurs cœurs s'amollir, répéta Athelstan. Est-ce que les rochers fondent au soleil? J'y serais encore si quelque mouvement dans le couvent n'eût fait quitter à ce tas de coquins leur tanière. Je viens d'apprendre que c'était leur procession qui se dirigeait vers ce château pour manger mon repas des funérailles, quand ils savaient bien où et comment j'étais enterré vivant. Je les entendais psalmodier leurs prières des morts, ne pensant guère qu'elles fussent chantées pour le salut de mon âme par ceux qui affamaient ainsi mon corps. Ils étaient partis cependant, et j'avais longtemps attendu ma nourriture, ce qui n'est pas étonnant. Le sacristain goûteux était trop occupé de sa propre pâture pour songer à la mienne. Enfin, il descendit d'un pas chancelant, et toute sa personne exhalait une forte odeur de vin épicé. La bonne chère avait attendri son cœur, car il me laissa une bonne tranche de pâté et une petite bouteille de vin, au lieu de ma pitance ordinaire. Alors je mangeai, je bus et je repris des forces. Puis, par surcroît de bonheur, le sacristain, trop étourdi pour bien remplir son devoir de guichetier, ferma les verrous en dehors de leur gâche, de manière que la porte resta entrebâillée. La lumière, la nourriture et le vin firent travailler mon imagination. L'anneau auquel mes chaînes étaient attachées était plus rouillé que le coquin d'abbé ne l'avait supposé. Le fer même ne pouvait résister à l'humidité de ce cachot infernal. « Respire un moment, noble Athelstan, » dit Richard, « et prends quelques rafraîchissements avant de continuer une histoire si terrible. » « Voilà 5 fois de suite que je me restaure aujourd'hui, » s'écria Athelstan. « Et cependant, une tranche de ce jambon savoureux ne saurait être la malvenue. Et je vous prie, brave chevalier, de me faire raison avec une coupe de vin. » Bien qu'ils ne fussent pas encore revenus de leur étonnement, les chevaliers obéirent au châtelain ressuscité, qui continua son histoire. Il avait, à la vérité, maintenant, un plus grand nombre d'auditeurs que ceux qui l'avaient écouté d'abord. Car Edith, sa mère, ayant donné les ordres nécessaires dans le château, avait suivi le mort-vivant dans l'appartement destiné aux étrangers, accompagné de toutes les personnes qui avaient pu pénétrer dans cette étroite chambre. Tandis que d'autres, pressés sur les escaliers, avaient imparfaitement saisi l'histoire, qu'ils avaient transmise à ceux qui se tenaient au-dessous, et ceux-ci la transmettaient aux manants du dehors, sous une forme tout à fait différente du récit primitif. Athelstan, toutefois, continua, comme il suit, le reste de sa narration. « Quand je me vois dégagé de l'anneau de ma chaîne, je montai l'escalier aussi lestement que pouvait le faire un homme chargé de fer et affaibli par 3 jours de jeûne. Et après avoir bien tâtonné, je fus enfin dirigé, par les sons d'un joyeux rondeau, vers un appartement où le digne sacristain disait une messe au diable en compagnie d'un grand frère à la face renfrognée, aux larges épaules et portant l'habit gris et le capuchon. Il ressemblait beaucoup plus à un voleur qu'à un prêtre. Je fondis sur eux, et la vue de mon linceul, aussi bien que le bruit de mes chaînes, me donnant plutôt l'air d'un habitant de l'autre monde que de celui-ci, tous les deux restèrent pétrifiés. Mais quand j'eus renversé d'un coup de poing le sacristain, l'autre maraud, son camarade de bouteille, me porta un coup avec son gros bâton. Je parierais la rançon d'un comte que c'était notre frère Tuck, s'écria Richard, se tournant vers Ivanhoé. « Que ce soit le diable ou un moine, peu m'importe, » dit Athelstan. Heureusement, il manqua son coup, et quand il me vit approcher pour en venir aux prises, il s'en fut à toutes jambes. Mon premier soin fut de rendre la liberté aux miennes, au moyen de la clé aux entraves, qui se trouvaient suspendues avec d'autres au ceinturon du sacristain. J'eus même la pensée de fendre la tête à ce scélérat avec son trousseau de clés, mais le souvenir du morceau de pâté et de la petite bouteille de vin dont il avait adouci ma captivité me toucha le cœur, de sorte que je me contentai d'une couple de bons coups de pied et je le laissai étendu sur le plancher. Et, après avoir expédié à la hâte une tranche de viande et une bouteille de vin qui formaient le festin des 2 vénérables frères, je courus à l'écurie, où je trouvai mon meilleur palefroid, qui sans doute avait été choisi pour l'usage du père abbé lui-même. Je galopais jusqu'ici de toute la vitesse de l'animal, chacun fuyait devant moi à mesure que j'avançais, me prenant pour un spectre, d'autant plus que, pour ne pas être reconnu, je m'étais en partie couvert la figure de mon linceul. Je ne sais même si j'aurais pu pénétrer dans mon propre château, si l'on ne m'avait pris pour l'aide du jongleur qui est dans la grande cour et qui a trouvé le moyen d'égayer mes gens, réunis pour célébrer les funérailles de leur seigneur. L'intendant a cru que mon costume faisait partie de la mascarade d'un saltimbanque, et j'ai pu ainsi pénétrer dans l'intérieur, où je n'ai eu que le temps d'embrasser ma mère et de manger un morceau avant de me mettre en quête de vous, mon noble ami. « Et vous me retrouvez, » dit Cédric, « prêt à reprendre dès demain nos projets pour l'honneur et la liberté. » Jamais il ne se lèvera un soleil plus propice à la délivrance de la noble race saxonne. Ne me parlez plus de délivrance, reprit Athelstan. C'est assez de m'être délivré moi-même. Je ne songe à présent qu'à punir ce grand coquin d'abbé. Il sera pendu au sommet de ce château de Königsbourg, dans sa chape et son étole. Et si les escaliers sont trop étroits pour laisser passer son énorme carcasse, je le ferai hisser du dehors au moyen d'une poulie. « Mais, mon fils, fit observer Edith, fais attention à son saint caractère. Faites attention, ma mère, à mes 3 jours de jeûne, répliqua Athelstan. Je veux qu'ils périssent tous. Front de Bœuf a été brûlé vif pour une faute bien moins grave, car il tenait bonne table pour ses prisonniers. Seulement, on avait mis trop d'ail dans les ragoûts. Mais ces fripons hypocrites et ingrats, qui si souvent sont venus, sans invitation, me flatter à ma table, ne m'ont pas même donné de ragoût à l'ail. Aussi ils mourront, je le jure par l'âme de Hengist. Mais vous oubliez le pape, mon noble ami, reprit Cédric. En dépit du pape, en dépit du diable, reprit Athelstan, ils mourront, n'en parlons plus. Quand ce seraient les meilleurs moines de la terre, le monde saura s'en passer. Fi donc, illustre Athelstan, poursuivit Cédric, oubliez de pareils misérables quand une carrière si glorieuse se déroule devant vous. Dites à ce prince normand que, tout courageux qu'il est, il n'occupera pas sans contestation le trône d'Albert, tant qu'il existera un descendant du saint confesseur pour le lui disputer. Quoi ? S'écria Athelstan. Est-ce là le noble roi Richard ? C'est Richard Plantagenet lui-même, répondit Cédric. Mais je n'ai pas besoin de vous rappeler que, venu ici librement, nous ne pouvons le maltraiter ni en faire notre prisonnier. Vous savez ce que vous devez à votre hôte. Oui, certainement, s'écria Athelstan. Et je sais aussi quel est mon devoir de sujet, car je lui offre ici mon fidèle hommage, mon cœur et mon épée. Mon fils, dit Edith, songe à tes droits royaux. Songez à la liberté de l'Angleterre, prince dégénéré, s'écria Cédric. Mère et amie, reprit Athelstan, trêve à vos exhortations. Le pain, l'eau et le cachot servent à mortifier l'ambition d'une manière merveilleuse. Je sors de la tombe en homme plus sage que je n'y suis descendu. Une partie de ces folles vanités a été versée dans mon oreille par ce perfide abbé Wolfram, et vous pouvez juger maintenant si c'est un conseiller auquel on puisse se fier. Depuis que ces complots s'agitent, je ne sais où je suis. J'éprouve des indigestions. Je ne reçois que des coups et des contusions. Et je vois que tout cela ne pourra se terminer que par la disette, l'emprisonnement et le meurtre de plusieurs milliers de gens tranquilles. Je vous dis que je ne veux être roi que dans mes propres domaines, et non ailleurs, et que mon premier acte d'autorité sera de faire pendre l'abbé. « Et ma pupille Rowena ?» demanda Cédric. « J'espère que vous ne voulez pas l'abandonner. » « Mon père Cédric, répondit Athelstan, soyez raisonnable, Lady Rowena se soucie peu de moi. Elle préfère à toute ma personne le petit doigt du gant de mon cousin Wilfrid. Elle est là pour le reconnaître. Allons, ne rougissez pas, ma belle parente. Il n'y a rien de répréhensible à ce que vous aimiez mieux un chevalier galant qu'un seigneur de province. Ne riez pas non plus, Rowena, car un linceul et un visage maigre ne sont pas, Dieu le sait, un sujet de gaieté. Mais si vous voulez rire absolument, je vous en donnerai un meilleur sujet. Donnez-moi votre main, ou plutôt prêtez-la moi, car je ne vous la demande que par amitié. Bien. Maintenant, cousin Wilfrid d'Ivanhoe, continua-t-il, approche. Je renonce à cette main en faveur... Eh, par Saint-Destin, notre cousin Wilfrid a disparu. Cependant, à moins que mes yeux ne soient troublés par le jeûne que j'ai enduré, je l'ai vu là, debout, il n'y a qu'un instant. Tout le monde se retourna, et chacun chercha Ivanhoe, mais il avait disparu. On apprit enfin qu'un juif était venu le demander, et que, après un très court entretien avec lui, il avait demandé Gert et son armure, et qu'il avait quitté le château. Belle cousine, dit Æthelstan à Rowena, si j'avais lieu de penser que cette disparition subite d'Ivanhoé ne provint pas de quelque motif très sérieux, je reprendrais les droits. Mais il n'eut pas plutôt abandonné sa main en apprenant la disparition d'Ivanhoé que Rowena, qui sentait tout l'embarras de sa position, avait saisi cette occasion de s'échapper de la chambre. Assurément, dit Æthelstan, les femmes sont de tous les animaux les derniers auxquels on puisse se fier. J'en excepte pourtant les moines et les abbés. Je veux être un païen, si je ne m'attendais pas à recevoir d'elle un remerciement, et peut-être un baiser. Il faut que ce maudit linceul soit ensorcelé. Tout le monde semble me fuir. Je reviens donc à vous, noble roi Richard, vous offrant de nouveau la foi et l'hommage que, comme votre fidèle sujet... Mais le roi Richard avait aussi disparu, et personne ne savait où il était allé. Enfin, on apprit qu'il s'était rendu en toute hâte dans la grande cour, qu'il avait fait venir le juif qui avait parlé à Ivanhoé, et qu'après 2 minutes d'entretien, il s'était jeté sur un cheval, avait forcé le juif à monter sur un autre, et était parti d'un train qui, selon Wamba, mettait la peau du mécréant dans un si grand péril qu'il n'y avait plus à y compter. « Ma foi !» s'écria Æthelstan. « Il est évident que Zernebock s'est emparé de mon château pendant mon absence. Je reviens couvert d'un linceul, gage de la victoire que j'ai remportée sur le tombeau, et tous ceux à qui j'adresse la parole semblent s'évanouir au son de ma voix. Mais à quoi bon s'en plaindre? Venez, mes amis, que ceux d'entre vous qui restent encore me suivent à la grande salle du banquet, de peur que d'autres ne disparaissent aussi. La table, j'espère, sera garnie comme il convient aux obsèques d'un ancien noble saxon. Mais hâtons-nous, car qui sait si le diable n'emporterait pas aussi le souper ?